Parent Control.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Καλημέρα.
Labas.
Buongiorno.
Et bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. L'Europe est une fête. Vous avez peut-être reconnu les bonjours grecs, hollandais, lituaniens et italiens de René, Willem, Ruta et Carla. Aujourd'hui, ce sont ces quatre pays qui représenteront la belle diversité européenne. Comment ça va, les amis ?
Ça va.
Ça va.
Ça va.
Ouais. Ça va ? Tranquilo ? Tranquilo n'existe pas, je crois, dans vos langues respectives.
Tout au poste.
Qu'est-ce que ça veut dire tout au poste?
Tout va bien.
Tout va bien, d'accord. Comment on dit tout va bien en hollandais?
Alles goed.
Ah oui, bah c'est exactement la même chose.
Ouais, plus ou moins.
Ça sonne pareil.
Le même tempérament, quoi.
Donc, moi, cette semaine, j'ai vécu un événement unique qui rassemble les Européens. Cet événement, c'est une compétition de golf qui s'appelle la Ryder Cup. Vous en avez probablement entendu parler, moi j'y suis allé mardi. En fait, c'est une compétition qui oppose tous les deux ans les meilleurs golfeurs européens contre les meilleurs golfeurs américains. Donc c'est vraiment l'Europe contre les USA. Et cette année, cette compétition a lieu en France, à Guyancourt, en ce moment même, puisque la compétition officielle a démarré vendredi et se finira dimanche. Les Européens sont en tête, donc go Europe, go Europe. Et là, vous vous dites, les Européens... Nous, on est unis que 3 jours tous les 2 ans, dans ce que je suis en train d'écrire. Ou alors vous vous dites, donc dans ton histoire, pour être unis, il faut un adversaire. Et là, comme par hasard, comme adversaire, tu as choisi les USA de Donald Trump. Ou alors vous vous dites, mais là, vous avez déjà dit beaucoup de choses en même temps. La seule chose qui unit les Européens, c'est le golf.
Ben, je suis pas sûr.
C'est ça, ouais.
Non, je pense que vous n'êtes pas dit ça, puisqu'il y a l'Europe est une fête et qu'on découvre à chaque fois, à chaque émission, qu'il y a plein de choses qui nous réunissent et plein de choses qui font notre diversité. En fait, je voulais aussi vous parler de mon expérience que j'ai eu à la Ryder Cup, puisque c'est le seul moment de la semaine où j'ai vécu dans la nature, au golf de Guyancourt, et que le thème de Grand Contrôle cette semaine, c'est « Paysans parisiens, la nature et l'agriculture en ville ». Bon, moi, c'était pas des paysans, des agriculteurs, c'était des golfeurs. Mais on était quand même dans la nature. Alors, c'était un peu plus artificiel, mais on reste avec de l'herbe, des oiseaux qui chantent, tout ça. Tout ça pour vous dire que c'est ce thème qui a librement inspiré les chroniqueurs d'aujourd'hui, avec notamment la chronique de René, qui va nous parler d'un sujet qui a préoccupé la Grèce tout cet été. René, aujourd'hui, tu vas nous parler des feux qui ont eu lieu en Grèce.
Oui, et particulièrement en fait, celui qui a eu lieu le 23 juillet, dans l'Attique et notamment dans la petite ville de Maaté, qui avec 99 personnes décédées pour l'instant, parce qu'il y a encore 17 personnes à l'hôpital, remporte le triste record en fait, de l'incendie le plus meurtrier de l'histoire grecque. Et il a par ailleurs détruit 86 km², donc c'est 80% de la surface de Paris.
D'accord, donc c'est un événement tragique. Est-ce que maintenant on connaît les raisons des feux, quelques mois après, enfin un mois et demi après ces événements ?
Alors, j'ai commencé par un peu l'image globale. En fait, donc les feux de forêt, c'est un problème récurrent l'été en Grèce depuis plusieurs années, notamment pour des raisons en fait, tout simplement environnementales. Donc le climat méditerranéen, c'est sec, c'est chaud, il y a du vent. Donc le 23 juillet, c'était les vents les plus forts enregistrés dans l'Attique sur les 8 dernières années. J'ai envie de le dire en grec, la vlast, les arbres, par exemple les pins, c'est littéralement explosif en fait. Quand un pin prend feu, à cause de la résine, à cause des pommes de pin, ça s'étend très rapidement. Cela dit, voilà. Et ça va être de pire en pire avec quand même le réchauffement climatique, avec l'observatoire astronomique, et pas astrologique, parce que du coup leurs prévisions font froid dans le dos et sont sans doute correctes, prévoit que il y aura une augmentation forte des journées à risque. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on comprend que dans un environnement propice ou dangereux, seulement 10 à 15% des départs de feu sont d'origine naturelle.
Ah ouais.
Donc ça veut dire que par définition, elles sont d'origine humaine. Et après, ça peut être soit de la négligence, Donc c'est par exemple jeter un mégot depuis une voiture, ou laisser des poubelles par exemple dans la forêt avec du verre, ou là on est sur de la négligence quand même un peu plus cartonnée de faire brûler des déchets dans son champ, et là voilà, la personne perd le contrôle. Et il y a aussi malheureusement, encore plus malheureusement si on ne peut pas trop monter en gradation, ouais, là, mais des incendies criminels, parce qu'il y avait un ensemble de textes de loi qui concernent les espaces à nada sotea, donc à repeupler d'art, on va dire. Qui fait qu'une fois qu'un champ ou un espace est déclaré comme ça, en fait, on ne peut pas construire dessus. Et ça a pu pousser des propriétaires à mettre le feu, tout simplement, pour repartir à zéro.
Une forme de magouille, quoi.
C'est plus qu'une magouille. Ouais. Et cela dit, maintenant, c'est quand même de moins en moins possible, ce qui semble logique, puisque par exemple, suite au feu, déjà au grand feu qui avait eu lieu en 2017, la plupart des espaces brûlés sont immédiatement déclarés à nouveau sous le même statut, donc on ne peut pas construire dessus. Et le problème, donc, pour revenir sur la question, après ce petit détour un peu plus global sur les causes à mater, en fait, on ne sait pas, parce que savoir qui a commencé un feu, ce n'est pas du tout évident. Et sur les premières heures du déclenchement de l'incendie, en fait, on a entendu un peu tout et son contraire, que c'était des causes politiques, que c'était criminel, que c'était... Parce que, comme j'ai dit, il y a eu plusieurs départs de feu le jour où les vents étaient les plus forts. Donc, on se dit, c'est dingue. Après, c'est possible des causes naturelles, parce que, par exemple, il y a des poteaux d'EDF qui sont tombés. Et en tout cas, un mois et demi après, on ne sait toujours pas, parce que le rapport officiel n'est pas encore sorti, et a priori, ça serait plutôt de la négligence.
D'accord. Alors, on a vu des images de ces incendies, et on a vu que finalement, ce n'était pas que les arbres qui brûlaient, que c'est déjà une catastrophe en soi, mais qu'il y avait aussi les espaces urbains, des maisons et même des villages qui brûlaient sous les flammes.
Ouais, et en fait là, on avance dans la ramification qui fait que les feux, c'est plus qu'une catastrophe naturelle, c'est presque une collaboration entre les forces aveugles de la nature et les défaillances humaines et sociales. Et là, on peut isoler deux éléments majeurs. Le premier, c'est l'urbanisme, et ensuite les réponses des services d'urgence. Donc comme tu dis, Mati, c'est ce qu'on appelle une zone mixte. Donc ça veut dire qu'il y a des maisons, et il y a aussi les fameuses forêts de pins dont j'ai parlé précédemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de ces maisons ont été construites, notamment par exemple dans les années 80, sans permis de construire. Elles ont pu être légalisées après coup, la plupart d'entre elles, mais ça fait que il n'y a pas eu de plan d'urbanisme pour prévoir ce danger qui en fait était là depuis très longtemps. Et ça a entraîné le ministre de la Défense nationale, donc Panos Kamenos, à jeter la faute sur les habitants eux-mêmes. Mmh. Donc quelque chose qui a déclenché une très forte colère, parce que je vous rappelle, donc c'est un ministre, donc c'est aussi lui qui est responsable de que cette situation d'illégalité de fait change, et en plus parce que la réponse des autorités a été très très loin d'être à la hauteur. En fait, le feu a pris très très vite et s'est transmis très très vite, et il n'y a pas eu de consigne d'évacuation claire, et ce qui fait qu'en fait les gens se sont retrouvés piégés dans la ville. Et la ville est au bord de la mer, mais malheureusement, la mer est en dessous, c'est sous des falaises. Donc, le seul abri, c'était la mer. Il y a des gens qui se sont noyés dans la mer après plusieurs heures d'attente, parce qu'à cause du choc thermique, les bateaux ne pouvaient pas se rapprocher trop de la côte. Il y a des gens qui n'ont pas pu atteindre la mer. Et donc chaque histoire est juste horrible. Et un groupe de proches des victimes a porté plainte au pénal contre les autorités pour négligence.
Comme tu l'as dit, c'est assez horrible. Donc le feu s'est éteint, mais des braises restent.
Oui, parce que en fait, les mesures concrètes se font attendre. Donc comme j'ai dit, il n'y a pas encore pas d'explication, mais on attend encore un rapport. Le gouvernement est accusé de cynisme, tout le monde se renvoie la balle, parce que comme j'ai dit, c'est un problème qui dure depuis des années, donc c'est pas chaque parti politique accuse l'autre. Le Parlement européen, un peu d'Europe, a voté mi-septembre une résolution entérinant le soutien du Fonds de solidarité pour restaurer les infrastructures. Mais à ma connaissance, en tout cas, j'ai pas trouvé plus de détails sur les sommes ou le calendrier, sachant que c'est quand même assez urgent, déjà parce qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas retrouvé leur maison, et aussi parce qu'au niveau des infrastructures, il faut agir pour éviter des inondations en cas de pluie cet hiver.
Ouais, d'accord, on n'est pas capable de réagir à la catastrophe et d'anticiper la prochaine catastrophe. Donc c'est les incendies en été et les inondations en hiver.
Ouais, là, il y a même un cyclone méditerranéen qui va toucher le Péloponnèse dans les prochaines heures.
Wow, ok. Bah, écoute, merci pour ces éclaircissements. Tu as un morceau de musique à nous faire écouter pour adoucir tout ça, peut-être ?
Ouais, alors, c'est pas très fair play parce que Shined n'est pas là. Mais j'ai choisi un morceau en fait, pour un peu taquiner le gardon et montrer que les Irlandais n'ont pas le monopole de la cornemuse, et les Bretons non plus d'ailleurs. Les Grecs ont plusieurs variantes qu'ils appellent la tsabouna, plutôt sur les îles ou la gaïda en Thrace. Et le morceau, par contre, c'est une composition contemporaine de Thanasis Papakostadinou, interprétée par Melina Kana, et ça s'appelle Meloia Sena, je parle pour toi.
D'accord, on écoute ça tout de suite.
Ou de toi.
Ψηλά τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια. Και μ' απάντησα σένα, πως όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφαγη ανθίζει. Και μ' απάντησα η γη ανθίζει εκεί που θέλει άμυρη ψυχή. Πως όταν με κοιτάς σαν λες πως μ' αγαπάς αγγέλη φτερουγίζουν. Και μ' απάντησαν είναι χαρτινή αγγέλη αμύρη ψυχή μην ξεγελαστεί.
Ça, c'était la cornemuse grecque. Merci pour ce morceau de musique. Les amis, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce que nous a dit René, Willem, Carla, Willem, Ruta.
Ça balance.
À qui le tour ?
Oui, ce que j'ai dit pendant la pause, c'était que aux Pays-Bas, quand même un tiers des Pays-Bas sont en dessous du niveau de l'eau.
Oui.
Donc ça veut dire qu'on a des inondations, etc. Mais ça fait 60 ans qu'il y a une espèce de fonds national qui a été créé pour construire, pour entretenir des digues. Donc a priori, ça fonctionne bien aujourd'hui. Il n'y a pas des grandes catastrophes avec plein de décès ou rien. Donc
une solution est en train d'être trouvée par rapport à ce problème de...
Oui, ça fait un petit moment qu'il y a... Je crois que c'est un fonds national dans lequel voilà, on met énormément d'argent pour justement entretenir tout ce qui est nécessaire. Quoi.
D'accord, ok.
Et nous, en Italie, ils étaient passés, on a vécu un peu la même crise d'incendie. On a eu pas mal d'incendies, en fait, provoqués par des gens pour, également pour avoir des opportunités de travail et pour renouveler les endroits pour les animaux, pour la forêt et tout. Donc, c'était un peu chaud aussi pour l'Italie.
Chaud, c'est le cas de le dire. Ouais. Ruta,
Nous, d'autre côté, on n'a pas vraiment des grosses catastrophes naturelles. Pour nous, ça sera plutôt le froid.
Oui.
Et même des gens qui meurent dans la rue aussi à cause
D'accord.
de ça.
D'accord. OK. OK, bon bah écoutez, on va pouvoir parler d'un autre sujet un peu plus léger avec Willem en partant en Hollande. Alors, je crois que tu veux nous faire écouter un petit morceau,
oui, ça commence
un extrait
par un petit morceau,
D'une BO d'un film. Donc
ouais,
c'est...
pour les Français, ouais, je ne sais pas.
Alors, c'est la BO du film de Claude Zidi. Le film s'appelle comment déjà ? C'est...
Banzai,
d'accord, ouais. de Coluche. Ouais. On écoute tout de suite le petit extrait.
D'accord, oui, ok. Et voilà, donc pour les Français, c'est surtout connu comme musique, comme générique du film Banzai, dont tu nous as parlé. Moi, je ne connaissais pas.
C'est ça, c'est en fait composé par Vladimir Cosma.
D'accord, ok. Pour les Hollandais, en tout cas, cette jolie petite musique ne peut représenter qu'une seule et unique chose, c'est l'intro du programme télé « Ma maison et mon jardin ». Une émission phare du samedi. Et c'est vrai, vraiment c'est vrai. Une émission phare du samedi au début de soirée, juste après le repas, avec comme contenu 60 minutes pures de bricolage et de jardinage à l'hollandaise. Non seulement apprend-on comment construire son propre lit superposé pour les enfants, mais aussi tout ce qu'on
Alors,
veut
attends,
savoir
attends.
Sur...
Le samedi soir, à l'heure de l'apéro à la TV hollandaise, on apprend à construire les lits superposés pour ses enfants.
Oui, et aussi comment construire son nid d'oiseau pour dans le jardin, ou de créer une fontaine dans son bassin à poisson d'or.
Tout ça, c'est dans le jardin.
Bah oui, et donc on reste un peu dans le thème.
D'accord,
c'est ça.
Bravo.
je me suis autorisé un peu de liberté pour construire une chronique autour des paysans parisiens, etc. Car dans cette émission, Ma maison et mon jardin, ce n'est pas forcément le côté agriculteur qui est mis en avant. Non, c'est avant tout une émission axée sur le côté déco, le plaisir pour les enfants et éventuellement le garage à construire pour mettre les vélos. Donc voilà, vous pouvez vous imaginer que le garage, c'est la coopération ultime entre le côté jardin et le côté mon jardin,
alors,
maison quoi.
Dis-nous Willem, c'est quoi le jardin idéal pour une famille hollandaise?
Déjà, il faut différencier les deux jardins d'une maison hollandaise. De façon générale, on peut trouver un jardin de devant et un jardin derrière la maison. Le but principal du premier, celui de devant, est de séduire les passants et on le considère donc comme élément décoratif de la maison. On y met des fleurs, des plantes et parfois même un petit arbre, toujours bien taillé et bien entretenu.
Des nains de jardin ou pas?
Des nains de jardin. Tu sais, les petits lutins.
Oui, surtout. Et bien colorés, si possible. mais il ne faut pas non plus oublier que la boîte aux lettres se trouve souvent dans la porte d'entrée de la maison, ce qui fait que le facteur du matin inspecte pas mal de beaux jardins dans sa tournée quotidienne.
Il les évalue à chaque fois, alors, du coup.
Oui, voilà.
Et qu'est-ce qui se cache derrière les maisons en briques? Des tomates, des courges, un potager ?
Non. Le jardin de devant est souvent le paradis des pères et des mères avec des doigts verts, comme on le dirait en néerlandais. Mais c'est le jardin derrière la maison qui est attribué aux enfants. On y trouve, par exemple, une trampoline, une piscine gonflable pendant l'été, un petit but pour jouer au foot, un toboggan ou bien une balançoire. Tout ça sur une belle pelouse ou, dans le cas de petits jardins en ville, un peu trop souvent du béton. Ce qui n'est pas toujours une bonne idée avec une trampoline ou balançoire d'ailleurs.
C'est pas non plus une bonne idée si on veut un potager le béton. Et qu'est-ce qu'on fait du jardin de derrière quand les enfants grandissent et quittent le foyer familial, Willem ?
Voilà.
Est-ce qu'on garde ce trampoline pour papy ?
Non, plusieurs options se présentent dès lors. On peut inviter plus de personnes pour les barbecues d'été. On pourrait également construire un terrain de pétanque pour ma part. mais en fait, tout est autorisé sauf le potager. D'où vient du coup le succès de l'émission Ma maison est mon jardin, car si on utilise le jardin surtout comme pièce à portée décorative à la maison, il y a quand même beaucoup à bricoler. Et on n'a même pas encore parlé des différents courants et tendances actuelles dans l'architecture jardinière.
Ce sera sûrement un sujet pour une autre émission, tu peux garder ce sujet-là. Donc la conclusion, c'est qu'on ne s'arrête jamais de travailler dans son jardin aux Pays-Bas. C'est une activité à plein temps.
En fait, oui. Si une fois, une fois son jardin après, l'Hollandais content part à la retraite et s'assoit derrière les géraniums, comme dirait l'expression hollandaise. Et oui, en effet, c'est une synonyme pour quitter la vie active et n'avoir plus rien à faire qu'à s'occuper des fleurs dans son jardin et pas non plus des courges.
Très bien. Et tu as réussi à trouver une musique hollandaise qui parle des jardins hollandais ?
Ouais, c'est déjà une coopération néerlando-surinamoise.
D'accord.
Entre deux chanteurs très populaires dans les deux sens du mot. et le titre traduit en français veut dire « J'ai un petit jardin dans mon cœur et il est pour toi ma rose. Plus n'y a tumeur. »
Bravo, on écoute tout de suite ce morceau. Alors merci Willem, mais la question que tout le monde se pose, c'est dans quelle partie du jardin vous cultivez vos plants de cannabis ?
On reste dans le cliché quand même. Hein.
Bah oui, un petit peu.
Bah oui, c'est surtout derrière, parce que de devant, c'est pas très décoratif quand même, les plantes de cannabis. Mais on a en effet le droit de mettre 5 plantes par foyer.
D'accord.
Ce qui suffit pour la consommation modérée personnelle.
Non, mais en fait, vous les mettez pas devant parce que vous avez peur que le facteur vous pique vos plantes de marijuana.
Oui, c'est sûr, ouais, on veut pas ça. C'est personnel au final quand même.
Bah oui.
Ouais.
Alors, on va revenir sur le jardin en règle générale. Est-ce que dans vos pays aussi, on a une culture un peu particulière du jardin ? Est-ce qu'on le cultive ou alors est-ce qu'en fait, on le laisse en friche ? On fait des potagers ? Je ne sais pas. Il y a des choses particulières ? Oui, en Grèce ?
Moi, je suis un peu étonnée que ce soit, qu'il n'y ait pas du tout de potager.
Oui, c'est vrai.
Parce que
c'est le grand
voilà,
truc, quoi.
Pour des choses à manger et pas à fumer. Et en tout cas, en Grèce, il y a beaucoup moins d'eau qu'en Pays-Bas. Hein. On le ressent en étant là-bas.
Ouais, ouais.
Du coup, c'est plus des potagers ou des arbres, quoi, les oliviers, les figuiers.
Moi, il y a la culture de cultiver
Les fruits. Gens consomment aussi, s'en servent pour consommer leur propre production. Ouais.
C'est ça.
Nous, en Italie, bon, dans les villes, c'est toujours compliqué hein, parce qu'il n'y a pas de place, malheureusement. Mais dans toutes les terrasses italiennes, il y a sûrement une plante basilique et un petit plant de tomate.
Ah oui,
ça, c'est la base.
En Grèce aussi.
La survie de base, c'est
basilique
ça.
Basilique partout. Et en Lituanie, quand c'est des givres, il y a un peu de jardin ou,
Comme Carla dit, dans les villes, c'est compliqué. Mais ouais. Dans les maisons de campagne, oui, justement, on a quand même des jardins. Mais c'est surtout les gens plus âgés à la retraite qui font ça.
C'est ça.
J'imagine jamais mes parents... faire en ça, jamais.
D'accord, et du coup, on va conclure cette chronique et on va passer à ton sujet, Ruta, et avec la Lituanie.
Je pense qu'en fait, on peut appeler les Lituaniens les vrais paysans de l'Europe, un peu en rigolant bien sûr, mais en fait, il y a deux raisons un peu différentes pour ça. Et l'une, il est lié à la politique actuelle d'un pays, et la deuxième, ça date du Moyen-Âge.
Alors, on va commencer par parler du Moyen-Âge.
Et même si la Lituanie a aujourd'hui une image de grand catholique avec autour de 79% des croyants catholiques, ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Et en fait, les Lituaniens qui font partie des peuples baltes sont les tout derniers non-chrétiens de l'Europe. Et ça reste vrai jusqu'au XIVe siècle. Apparemment, on était les plus résistants à l'époque, où les chevaliers teutoniques, qui sont une sorte d'ordre militaire chrétien, avaient pour l'objectif la protection des chrétiens et pour l'objectif final, la christianisation du continent ou même du monde entier. Et en fait, nous, les Lituaniens, on avait une autre religion en nous et c'est pour ça qu'en fait, on était souvent représentés comme les paysans sauvages non cultivés de l'Europe.
D'accord. Alors, c'est quoi cette croyance mystérieuse des paysans sauvages non cultivés, comme tu les appelles ?
Cette religion, en fait, en français, elle s'appelle le paganisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Oui, oui, oui.
Et nous, en lituanien, on dit pagonib. Donc, c'est assez proche. Et en fait, ce mot décrit tout ce qui ne sont pas chrétiens ou juifs. Et le mot en soi vient du mot latin paganus, qui donc signifie un paysan. Et en fait, le paganisme ne signifie pas qu'il n'y a pas de religion du tout, mais bien au contraire. La différence, c'est que cette religion est basée sur tout ce qui est la nature. Et en fait, la terre entière, c'est un lieu sacré. On croit aux forces de la nature comme le soleil, le ciel, la lune.
D'accord, donc c'est vraiment la croyance et la religion de la nature. Mais il y a des pratiques, des coutumes particulières aux adeptes du paganisme ?
En fait, les fêtes principales sont toutes liées aux phénomènes naturels comme les solstices ou les équinoxes.
D'accord.
Et pendant le festival de solstice d'été, par exemple, l'une des traditions consiste à aller chercher des plantes, ce qui est trop marrant. Dans la nature, au moment où le soleil se couche, c'est en sorte
donc,
de rituel.
Tout le monde va chercher des plantes dans la nature, c'est ça ?
Exactement. C'est comme ça qu'on s'amuse.
Comment ?
Ou dans les jardins hollandais, depuis un petit moment.
C'est peut-être plus intéressant dans les jardins hollandais, justement.
D'accord. Et il y a d'autres rituels ?
Et les autres rituels liés, qui sont aussi liés au culte de la nature, comprennent les feux sacrés qui sont construits de pierre. Et même les morts sont aussi brûlés dans ce genre de feu.
Et donc ça, c'est toujours présent aujourd'hui ? Enfin, je veux dire, le paganisme en Lituanie est toujours présent actuellement ?
En fait, j'avais trouvé qu'aujourd'hui, on comptait autour de 5000 personnes qui se déclarent en tout cas comme appartenant à cette communauté. Et ce qui est assez en fait, élevé comme chiffre, sachant qu'on est moins que 3 millions au total des Lituaniens. Et les gens qui font partie de cette communauté, justement, ont leur propre tradition, fête et coutume.
Alors du coup, c'est considéré comme une vraie religion aujourd'hui, parce que la plupart des Lituaniens sont catholiques, je crois, c'est ça ?
C'est ça, plus que 70%. Mais en fait, du coup, cette religion, ce n'est pas la religion officielle traditionnelle,
d'accord.
Pas encore. Mais toutefois, on avait des vifs débats au sein du gouvernement il n'y a pas longtemps. Et les questions qu'on se posait, c'est est-ce que cette communauté doit être reconnue par l'État ?
D'accord.
Ou non. Et si jamais elle devient reconnue, ils auront le droit à leur propre mariage, reconnu par l'État aussi, et même le droit que cette religion soit enseignée aux écoles. Mais pour l'instant, c'est toujours pas reconnu.
Donc c'est là que tu disais qu'il y avait une des raisons, c'était le Moyen-Âge, et l'autre raison, c'était la raison politique.
Effectivement, parce que ce genre de débat qu'on avait était initié par la partie politique qui officiellement s'appelle l'Union Lituanienne Agraire et des Verts. Mais je pense que la traduction plus exacte, c'est la partie des paysans.
D'accord.
Tout simplement. Ils ont passé de 4% en 2012 au presque 22% aux dernières élections en 2016. Et en ce moment, ils ont la majorité des sièges. En fait, du coup, quand toute l'Europe s'inquiète de la montée en puissance des populistes de l'extrême droite, on a décidé d'aller complètement dans l'autre sens. Et aussi, comme ça, pour montrer notre mécontent de la politique actuelle.
Okay.
Toi, je ne pense pas que c'est une bonne direction, parce que cette partie, je les trouve absolument incompétentes.
D'accord.
Mais laissons politique à côté.
D'accord, ok. Donc, ton avis personnel, c'est qu'ils ne sont pas capables de gouverner votre pays.
Du tout. Bon, c'est même souvent... si c'est mieux que l'extrême droite, bien sûr.
Ça, c'est un petit parti. C'est souvent le cas avec les petits partis. Ouais. Tu as une musique lituanienne à nous faire découvrir aujourd'hui.
Oui, comme là, j'ai parlé des paysans, je veux vous amener un peu dans le temps plus moderne et faire écouter la chanson du groupe lituanien de rock qui s'appelle Freaks on Floor.
Allez, on y va pour Freaks on Floor. Alors, on va relancer sur la chronique de Ruta. Merci pour ce musique, ce morceau de musique qui nous a un peu réveillé. C'était nécessaire, je crois. Est-ce que dans les pays européens que vous représentez, les gens sont croyants encore aujourd'hui à notre époque moderne, ou est-ce que la plupart des gens ne croient plus en rien? Non.
Bon, en Italie, on a un système de croyances. Bon, évidemment, c'est un pays catholique, on le sait. Mais je ne sais pas si en Grèce aussi, il y a ça. Mais il y a tout un système de croyances liées au saint, hein, au sein, on sent patronne du village, d'accord, la Madone, ah, okay, à toi, tout ça qui fait les miracles, tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose pour vous dire, non, notre oui, les saints, c'est ça.
Oui, parce bon, qu'il faut dire que Cara fait des gestes un peu évocateurs.
La gestuelle, la gestuelle
qui prête à confusion.
Oui, parce que je ne sais pas prononcer les mots saint. Voilà.
Et donc le saint, S-A-I-N-T, donc comme la Saint-Gertrude, par exemple.
Voilà, voilà. Vous êtes bizarres, les Français. Bon, ok.
Et non, mais
pour vous dire, non, mais pour
laisse
vous dire,
tranquille.
Non, mais il y a un truc, Gigi Di Maio, qui est actuellement au gouvernement, tu vois, il y a un an, il était chômeur, il n'a jamais travaillé de sa vie, il s'est fait bénir à travers le miracle du sang du San Gennaro à Naples, et aujourd'hui, il est ministre du Travail. Il est vraiment allé faire ça publiquement, il a publié ça sur les journaux et tout, mais vous voulez dire ça. Alors là,
mais ça a marché.
Wow.
Oui, ça a
mais
marché.
Je vais y aller aussi.
Il faut se dire, il a allé se faire bénir pour gagner les élections en Italie. Alors, il faut dire qu'il a juste demandé, je vais gagner les élections, tu vois. Donc, San Gennaro, il n'y a plus rien pour son alliance avec Matteo Salvini, tu vois. Lui, il a juste demandé de gagner les élections.
Et San Gennaro, c'est le saint des causes perdues ou...
Non, bon, San Gennaro, c'est un saint hyper puissant à Naples. Vous allez, wow. C'est le 19 septembre, il vient d'être ça. Et vous allez voir, à Naples, il y a plein de gens qui vont à la célébration de San Gennaro pour se soigner les maladies, tout ça. Et c'est, ça, c'est quelque chose de hyper ancré en Italie. Chaque petit village a son saint, tu vois, là où on va parler aussi quand ce sera mon temps, là, la chronique, ouais. On va parler de ça, mais,
alors,
mais voilà.
J'aurais presque pu enchaîner avec la chronique, mais je vais laisser les autres me parler un peu de la façon dont ils perçoivent la croyance. Et, enfin, est-ce que les gens sont croyants, tout simplement, en Grèce
Bah, la Grèce, c'est 97% orthodoxe.
D'accord.
Donc, il n'y a pas trop la place
pour ne pas être croyant.
Pour les autres. Après, voilà, sans rentrer dans les débats sur les pratiques religieuses grecques, je pense que ça, je ferai une chronique dessus parce que je ne peux pas trop développer
en deux secondes
sans faire un peu voilà, des
mais brassages. Mais donc, l'info, c'est que les gens sont voilà, majoritairement...
Et pour revenir un peu sur le paganisme, parce que ça existe toujours, moi, ce que j'aime bien en Grèce, c'est on a le mate, c'est le mauvais œil. Que vous pouvez mettre à absolument toutes les sauces. C'est-à-dire que si un jour vous n'êtes pas très en forme, vous avez raté le train et tout, vous dites genre, on m'a matiassé, c'est le mauvais œil. Quoi. Et
d'accord.
Franchement, je vous invite à l'adopter. Parce que... Et ensuite, il y a plein de techniques, mais que je ne peux pas raconter en ligne, voilà, qui vous permettent donc de se dématiasser, de se battre le mauvais œil.
Suspense, mystère. Willem Ruta, vous avez du mauvais œil chez vous ou pas de mauvais œil? Non, pas particulièrement.
Et pas de Sainte-Gertrude non plus, d'ailleurs.
Merci, Willem, ouais. Pour cette intervention. On va passer à la chronique de Carla, et en partant en Italie, et pour découvrir une petite île charmante.
Oui. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des éoliennes.
Ah bah, je croyais que tu voulais parler d'une île, là, tu vas nous parler d'écologie.
Mais non, Casimir, c'est pas les éoliennes avant, les îles éoliennes en Sicile. Oh, alors, c'est un petit coin de paradis, un petit peu de beauté, hein, c'est la beauté qui sauvera le monde, n'est-ce pas ?
Oui.
Bon, en tout cas, on s'en fout. Hein, j'avais juste envie de vous raconter mes vacances. Parce que vous pouvez pas le voir, mais je suis encore toute bronzée.
C'est vrai que tu es toute bronzée, nous, on peut le voir. Ouais. Et alors, c'est quoi les îles éoliennes ?
Alors, les îles éoliennes, autrefois, c'était des volcans. Il y en a une qui est toujours un volcan, Stromboli. C'est là où Ingrid Bergman a rencontré Roberto Rossellini. Oh, ils ont créé Isabella Rossellini bien. Là-bas. Bon, voilà.
Ils
ça,
ont
c'est
créé.
Le... c'est pour le gossip. Mais je ne vais pas vous parler de Stromboli, mais je vais parler plutôt de celle qui tout le monde ignore parce que c'est la plus éloignée, la plus sauvage peut-être, ou peut-être la plus fatigante, Alicudi. Alors, pour qui passe avec les malheureuses croisières non, qui vous promettent de visiter toutes les éoliennes en 5 jours, Alicudi restera toujours un rocher de merde.
Alors, c'est un rocher de merde ou c'est un coin de paradis ? Il faut que tu sois clair.
Alors, c'est comme ça qu'il appelle les habitants de l'île à côté, Filicudi.
D'accord.
Un thrill, on le sait, il y a toujours un peu de compétition. Hein. Bien sûr, si vous restez 4 heures à Alicudi, vous ne pouvez rien comprendre. Alors, Alicudi monte en hauteur. Il n'y a pas de route, il n'y a que de marche. Par conséquent, il n'y a pas de voiture, ni scooter, ni vélo. À Alicudi, il n'y a que tes pieds. Et sinon, il y a les ânes. Hein. Donc, attention, il faut faire gaffe où vous trouvez votre logement. Demandez à quel numéro de marche. Parce que si vous êtes à la 150e marche, comme moi, c'est faisable. Mais s'ils vous disent qu'on est à 300 mètres de la plage, hein, mais on est à la marche numéro 600, hein, ça peut vite virer au cauchemar. Hein. Votre séjour à la mer peut se transformer en une semaine de séjour à la montagne. D'ailleurs, les habitants de l'île appellent cette partie la montagne. Et moi, je trouve que c'est ce double visage le plus charmant de ces petites îles. À la balle, il y a la mer, les petites criques, les pêcheurs. À haut, il y a un autre monde. Alors, il faut dire, je suis montée jusqu'en haut. Hein. Je me suis levée à 6 heures du matin pour échapper au violent soleil sicilien. Et il n'y a pas de mots. Ça vaut juste le coup. Alors, pour la petite histoire, Alicoud a reçu l'électricité en 1998,
seulement.
Hein, il y a 20 ans. Et il y a une partie de l'île qui n'est toujours pas desservie. Là-bas, il y a une communauté d'Allemands qui s'est installée avec des éoliennes. Hein.
D'accord, donc je savais que ça avait un lien avec les énergies renouvelables,
bah oui,
finalement.
Elle s'appelle éolienne parce qu'il y a beaucoup de vent. Et voilà, les Allemands essaient de relancer l'agriculture locale parce que l'hiver, ça peut être dur à Alicoud. Il reste que 60 habitants là-bas. Et c'est l'île avec l'école plus petite d'Europe. Hein. Il n'y a que 3 élèves qui montent jusqu'à la marche numéro 300 pour aller à l'école et à leur petite bibliothèque entre le ciel et la mer. C'est un endroit particulier, cette île. Alors apparemment, un écrivain italien a passé beaucoup d'années là-bas. Il a écrit un roman à partir des histoires qu'il avait entendues à Alicoud. Eh bien, à la sortie du roman, apparemment, gli Alicoudari, les habitants d'Alicoud, étaient tellement en colère qu'ils lui ont pourri la vie et il a dû vendre sa maison. Bref, ce qui se passe à Alicoud reste à Alicoud. Hein. Et bon, à Alicoud, il faut dire, petit truc, il n'y a pas de restaurant. Hein. Ça, c'est la partie guide Rutard de la chronique. Hein. Il y en a un, en fait, mais j'y suis pas allée. Ah, franchement, beaucoup mieux ce fut. Oui, tout d'un coup, on est dans un conte du Moyen-Âge, là. Je commence à trop maîtriser la langue française, tu trouves pas ?
Tu as toujours bien parlé la langue française, Carla. Ouais. Mais comment on fait pour se nourrir sur l'île s'il n'y a pas de restaurant pour nous, les touristes européens ?
Eh bien alors, il faut aller manger chez les locaux. Hein. La quantité de nourriture qui vous allez ingurgiter correspond à celle d'un mariage à l'italienne. Chacun a sa particularité. Alors Silvio, le pêcheur, vous fera manger le meilleur poisson de votre vie. Et à la fin, il vous fera des petits tours de magie sympathiques. Adriana et Pino vous feront manger des sublimes boulettes de poisson et la meilleure caponata de votre vie. La caponata. Non,
non,
vous
ne
savez pas ce que c'est. Non, okay.
Tu peux nous expliquer
quand même ? Mais vous voyez, là, j'ai passé trop de temps en Italie. Là. Alors, la caponata, c'est l'apothéose de l'aubergine, le triomphe du Capre, la symphonie du soleil à table.
Là, on est toujours sur un volcan, là.
Ouais, c'est ça. Pino, à la fin du repas, attention, va chanter. Alors, il faut dire que parfois, Pino chante un peu faux. Heureusement, le soir où j'y suis allée, il y avait Tino qui jouait de la guitare pour garder un peu de musicalité. Oui, ils font un duo, hein, Tino et Pino. Hein. Et j'ai fait un petit enregistrement pour vous, si vous voulez l'écouter.
Eh ben, on écoute l'extrait.
Ad Alicoudi, ad Alicoudi, chiara la noia, poi ti passeran.
Bravo. Bravo Tino et Pino, bravo.
Pino et Pino. Et bien, petite cerise sur le gâteau. À Alicoud, il n'y a pas d'éclairage public. Donc, quand la nuit tombe vraiment. Et vous pourrez voir le ciel étoilé, le plus beau de votre vie. Bref, toute la fatigue qui vous demandera pour monter ces marches ne sera pas perdue. Elle va vous donner un retour plein d'énergie, plein de force et plein de... Bon, je ne peux pas dire plus, parce que ce qui se passe à Alicoud
reste à Alicoud. Merci Carla, tu as choisi une musique ou on reste sur la musique de Tino et Pino ?
Non, j'ai choisi une musique, parce qu'en fait Tino, sa façon de chanter, Tino c'est celui qui chante bien dans le son, ça m'a rappelé beaucoup un ancien chanteur italien des années 60, il s'appelle Rino Gaetano.
Thank you.
se non essenzialmente tu, un'altra, ma è meglio fossi tu, tu, forse non essenzialmente tu, hai scavato dentro me e l'amicizia c'è, io che ho bisogno di raccontare io la necessità di vivere, rimane in me. E sono ormai convinto da molte lune dell'inutilità irreversibile del tempo. Mi sveglia alle 9:06, decisamente tu. E non si ha il tempo di vedere la mamma e si è già nati. E i minuti di incorrersi senza convivenza. Mi svegli e sei decisamente tu. Forse non essenzialmente tu. E la notte confidenzialmente blu cerca.
Confidentialmente, bon, c'est presque ça. Pour revenir sur le sujet de la chronique, est-ce que vous aussi, vous avez des petites îles paradisiaques dans vos pays respectifs?
Moi, ça me fait forcément penser aux Cyclades, qui doivent être un peu cousins, et où d'ailleurs, l'arbre le plus haut, comme dirait mon père, c'est le basilic.
Nous, on n'a pas... c'est tellement plat chez nous qu'on n'a que des collines, que les forêts, que nous, on rêve d'aller dans les pays comme l'Italie ou la Grèce.
Donc, il y a des îles en Lituanie aussi, non?
Non.
Non, il n'y a aucune île?
Il n'y a aucune île.
Waouh, ok, d'accord. Et les petites îles paradisiaques?
Il y en a cinq.
Cinq
îles. Il y a cinq îles et il y en a deux qui sont juste habitées, je crois, l'été, où il y a un ornithologue qui habite pour compter des oiseaux, quoi. C'est tout. C'est pas très paradisiaque, quoi.
Il est tranquille pendant qu'il compte les oiseaux.
Bah, ouais, c'est ça. Il n'a pas autre chose à faire.
Bon, bah, écoutez, bah, merci à tous pour vos réactions. L'émission touche à sa fin. Avant de finir, j'ai un petit jeu à vous proposer. Je vais vous dire un proverbe. Et je voulais savoir si vous serez capable de savoir de quel pays provient ce proverbe. Ouais, c'est un nouveau jeu que j'ai rajouté, comme ça, je vous prends par surprise. Alors je vous cite le proverbe. Une bonne parole n'a jamais cassé une dent. Ping, boum, ping, boum.
Et c'est un de nos pays, là?
Pas ici, non, pas autour de la table. C'est un des pays qui participe à l'émission de temps en temps. Là, je vous donne déjà des indications. Oui. Donc c'est un pays européen, déjà. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous...
L'Irlande?
Wow, bingo, l'Irlande, et ça veut dire... Et en fait, ça revient à dire qu'être gentil ne fait de mal à personne. On va rester sur ça. Donc, merci à tous pour nous avoir fait vivre cette émission. Merci à René pour ses explications autour des feux de forêt dévastateurs qui ont ravagé la Grèce. Merci à Willem. Maintenant, je sais que je dois diviser mon jardin en deux parties. Une pour les enfants, une pour les adultes et une petite troisième pour les plants de weed, si j'en ai envie.
Apparemment, ouais.
Merci à Ruta pour nous avoir éclairé sur la présence du paganisme en Lituanie encore aujourd'hui. Et merci à Carla de nous avoir fait découvrir les îles éoliennes qui sont idéales pour ceux qui sont en quête de tranquillité. Mais pas d'électricité.
Non.
Merci à Radio Grande Contrôle d'avoir accueilli l'émission. Merci à Mafé, Mathilde. Et Félix de nous aider à produire cette émission. On se dit au revoir dans toutes les langues. 1, 2, 3. À la prochaine.
Libre et curieux. Libre et curieux.